réponses à vos questions. Alors, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six. Six. Et je pense pas qu'on va passer au travers des six. Mais en fait, j'en suis sûr parce qu'il y en a deux là-dessus que j'ai pas apporté de réponse. Parce que je la connais pas. Mais il y en a, non, peut-être, non, on sera en mesure de les étudier. Je vous les donnerai tantôt. Et puis, je vous expliquerai grosso modo pourquoi j'ai pas nécessairement de réponse à ça. Mais on va voir ce soir ce que les Écritures disent. J'ai essayé de rechercher ce que les Écritures peuvent répondre aux questions que vous avez données. Puis on va prendre le temps de regarder ça. Je pense qu'il y a des choses intéressantes là-dedans qu'on peut apprendre. Et on va voir ce qu'on peut en tirer. Je vais faire un mot de prière avant qu'on commence. Seigneur, on vient devant toi pour te louer. Premièrement, pour t'adorer. On va te dire merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton œuvre, pour ton plan qui est parfait. Seigneur, ton plan que tu vas mener à terme. Comme on vient de chanter qu'un jour tu vas venir nous chercher, qu'un jour tu vas nous appeler. Et c'est une assurance que chacun des croyants, Seigneur, chacun de tes enfants, on a qu'un jour tu vas venir nous chercher, qu'on va être avec toi pour toujours. Et on a hâte à ça, Seigneur. On a hâte que ton règne sur la terre s'établisse comme il est établi déjà au ciel. Et ce soir, Seigneur, on veut ouvrir ta parole. On a des questions sur des choses que tu nous dis. On n'a pas toutes les réponses, mais Seigneur, ta vérité, ta parole, elle est bonne pour nos vies. On veut l'ouvrir et on veut apprendre à connaître tes réponses à toi. On veut connaître ta personne et ta parole. Et c'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen. Je vous invite à ouvrir dans vos Bibles, dans Acte 8. La première question que je me suis fait poser, qu'on va voir ce soir, question dans Acte 8, par exemple, Acte 8, 15 et Acte 19, 6, pourquoi ces croyants n'avaient pas reçu le Saint-Esprit? On va lire les textes. Et la question est pourquoi dans ces textes-là historiques, ces gens-là n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Dans les deux textes, j'aimerais vous suggérer qu'il y a deux raisons différentes. Alors, on va lire les textes, si vous voulez bien, puis je vais vous poser la question. Essayez de me dire pourquoi, selon ce que vous pouvez constater dans les Écritures, pourquoi est-ce que ces gens-là n'avaient pas encore reçu l'Esprit? Alors, je pourrais dire même qu'il y a deux raisons différentes pour ces textes-là, et on pourrait en ajouter une troisième qui va englober ces deux-là. Je vais m'expliquer au fur et à mesure. Je vais essayer de ne pas vous perdre tout de suite, là. Dans Acte 8, le contexte, on arrive avec, mettons, Acte 8 au verset 5. Philippe était descendu. Philippe étant, regardez verset 4, Acte 8, 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Les disciples avaient été persécutés à Jérusalem. Les disciples se sont dispersés, se sont répandus. Et là, on arrive au verset 5 avec Philippe, qui ses disciples-là sont devenus en quelque sorte des missionnaires. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, on aurait pu traduire dans une ville de Samarie, et prêcha le Christ. Il vient d'annoncer la bonne nouvelle. On va aller directement, en fait, je vais juste vous résumer le contexte. Philippe, il se met à prêcher l'Évangile, et avec la prédication de l'Évangile, se produit des miracles que Dieu va opérer pour confirmer le message de l'Évangile. Il y a un homme qui, lui, était déjà présent dans cette ville-là, qui était un magicien, qui était Simon. Alors, Simon le magicien intéressait les gens de sa ville par ses miracles, et puis il impressionnait les gens, puis les gens disaient « Wow, il doit sûrement venir de Dieu ». Mais quand Simon a entendu le message de Philippe et a vu les miracles, et lui a été particulièrement touché, et lui aussi a voulu être sauvé. Et ensuite, on arrive au verset 12. On va lire les versets 12 à 19. Est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait le lire? OK, Pauline, s'il vous plaît. OK. Et là, on aurait pu continuer de lire l'histoire de Simon. Les apôtres vont très fortement reprocher à Simon que de vouloir acheter un don de Dieu à prix d'argent. Et il va leur dire que ton argent périsse. Verset 20, Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Bref, on vient de voir un groupe de gens qui vient d'être de croire au message de l'Évangile, le verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, ils ont cru le message que Philippe leur annonçait, ils ont même été baptisés. Et le texte nous dit qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit encore. On met ça en attente, on s'en va au chapitre 19, parce que sur la question, les deux textes étaient ensemble. Toujours dans Actes 19, on va lire les versets 1 à 6. Est-ce qu'il y a un volontaire? On pourrait lire 1 à 7 là, pour compléter la péricope. Paul. OK. Je vous repose la question, OK? Je prends quelques commentaires. Pourquoi est-ce que dans Actes 8:15, dans Actes 19:6, ces croyants-là n'avaient pas reçu le Saint-Esprit? Pourquoi ces croyants-là n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, François? OK. OK. Alors, c'était nécessaire que Pierre y soit présent. C'est ce que tu réponds? OK. C'est bien. Je dirais que c'est certainement un très bon élément de réponse. Quoi d'autre aussi qu'on peut ajouter? Pourquoi ces gens-là n'avaient pas reçu le Saint-Esprit encore? Oui, Céline. Oui. Est-ce que vous voyez une différence de foi entre les deux groupes qu'on vient de lire? Mais oui, il y en a une. Parce que dans Acte 8, ces gens-là ont cru au message de l'Évangile que Philippe leur avait annoncé et ils ont été baptisés. De quel baptême ils ont été baptisés? Ben, le baptême de Jésus-Christ, le baptême du chrétien. Tandis que dans Acte 19, de quel baptême est-ce qu'ils ont été baptisés? Ben, Jean-Baptiste, le baptême de repentance. Et il manquait une information à la foi, si je peux dire. Il manquait une information à la révélation. Dans les Actes, et particulièrement jusqu'aux Épîtres, si je peux dire, on doit croire et on voit à travers les Écritures ce qu'on peut appeler la révélation progressive. Alors, ce que Abraham avait, par exemple, comme révélation à ce moment-là, n'est pas la même révélation que ce que nous, on a aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Alors, c'était la même chose pour ces gens-là. Et pour eux, selon leur révélation qu'ils avaient eue, qui n'était pas à jour, c'était la repentance, selon Jean-Baptiste, mais il manquait le baptême de Jésus-Christ, qui était la foi en Jésus-Christ, selon qui était le message de la croix, finalement. Ces gens-là, dans Acte 19, étaient tout simplement pas sauvés. Ils avaient besoin, ils avaient un bon bout de chemin dans la foi de fait, mais ils n'étaient pas sauvés, puisque leur connaissance de Dieu arrêtait avec la révélation dans un sens de Jean-Baptiste. Et là, verset 2, Paul demande, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Répondirent, « On ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Hein? Il manquait une information importante. » Parce que le premier baptême, quand on est chrétien, c'est celui du Saint-Esprit. Et ces gens-là n'étaient même pas informés qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit. Et là, ils disent que finalement, ils ont été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Verset 5, sur ces paroles, je suis toujours dans Acte 19, « Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Et là, au verset 6, « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. » Et là, il y a eu les signes d'une manifestation du Saint-Esprit qui était venu, qui était le parler en langue et les prophéties. Ces gens-là étaient environ 12. Alors, au moment qu'ils ont accepté Jésus-Christ, comme ils ont accepté l'Évangile, là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Je mets en attente la question qu'on peut peut-être se poser. Pourquoi fallait que Paul leur impose les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Revenez avec moi dans Acte 8. On avait déjà donné un élément de réponse dans Acte 8 en parlant de Pierre. Qui sont ces gens-là qui viennent de se convertir? Des païens, des samaritains, c'est comme des hybrides. C'est comme de... parce que les païens, officiellement, si je peux dire, les païens, c'est Acte 10 avec Corneille. Ça, c'est vraiment un païen pur laine, là. Mais les Samaritains, vous souvenez-vous la discussion que Jésus avait eue avec la Samaritaine? Il y avait des connaissances connexes. Les Samaritains sont en quelque sorte la branche du royaume du Nord qui s'est mélangée avec des païens et qu'il y a eu, dans un sens, le royaume du Nord qu'on appelle maintenant la Samarie, qui est une région, qui est pas une ville, mais qui est une région. Ben c'est ces Juifs-là du départ qui étaient divisés, qui étaient au Nord et qui se sont mélangés à d'autres nations. Et là, ils ont toujours eu dans leurs mœurs ou à quelque part profondément des liens juifs, une connaissance de la pratique, si je peux dire, juive. Comme la Samaritaine a dit, ben vous allez sur cette montagne-là, vous allez à Jérusalem pour adorer, puis nous c'est différent aux prophètes, et puis mais ils sont cousins, si je peux dire. Alors c'est pas encore des païens, mais c'est des Samaritains. Mais les Juifs les aiment pas, les Samaritains. Vous souvenez-vous quand que Jésus, son heure étant arrivée, a pris la décision de s'en aller à Jérusalem. Et pour aller à Jérusalem, Jésus, lui, il faisait pas les détours. Hein? Il passait en Samarie. Samarie est vraiment en haut de la Judée. Et puis, s'il était en Galilée, lui, il passait pas l'autre bord pour revenir. Il passait à travers. Pour lui, pas de problème de parler avec les Samaritains. On en a vu un exemple avec la Samaritaine, justement, au puits de Jacob. Et là, quand Jésus s'en va à sa dernière venue à Jérusalem, il passe par la Samarie, et il envoie Jacques et Jean pour dire, le maître, il s'en vient, il va coucher chez vous, voulez-vous l'accueillir? Et là, vous souvenez-vous, qu'est-ce que les Samaritains disent? Non, on veut rien savoir de Jésus. Qu'il continue son chemin, on veut pas qu'il arrête. Il y a eu des Samaritains qui ont cru. Au moment où Jésus avait parlé avec la Samaritaine, il y avait déjà une portion de Samaritains qui avaient accepté sa parole à ce moment-là. Mais là, ils ont refusé. Et Jacques et Jean, eux autres, dans leur emportement et dans leur emballement, hein, ben, pourquoi qu'on ne les brûlerait pas, Jésus? Hein? Faisons tomber le feu du ciel, on va régler tout de suite leurs problèmes, on regarde le grand trône blanc, on va attendre ça un petit peu, maintenant brûlons-les. Et là, Jésus, il dit, je suis pas venu pour condamner, je suis pas venu pour juger, je suis pas venu pour détruire, je suis venu pour sauver. Alors, déjà, ce que je veux faire souligner, ce que je veux souligner avec ça, c'est le fait que déjà Dieu avait un intérêt pour ces Samaritains-là. Mais le problème des Samaritains en face des Juifs, c'est quoi? C'est quoi le problème des Samaritains selon les Juifs? Ils sont pas purs. Ce qui mérite vraiment de connaître Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, les Juifs n'aiment pas les Samaritains. Ils sont pas des païens au sens propre du terme, mais les Juifs ne les aiment pas nécessairement. Et là, on a des chrétiens juifs, si je peux dire, et eux, leur nouvel enseignement de l'Évangile qui est d'aimer son prochain, c'est nécessaire là que de commencer à dire maintenant, notre maître, il nous parle d'amour, puis d'aimer mon prochain, puis ça, c'est les Samaritains. Et ce que j'aimerais vous suggérer comme réponse, c'est que regardez dans Acte 8, bon, Simon y a cru, et là, au verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent une délégation. Et on est allé avec le paquet, on a envoyé Pierre et Jean, deux apôtres, pour aller vraiment voir ce qui s'est passé en Samarie, pour voir qu'est-ce qu'ils ont cru. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On imagine qu'ils sont arrivés, ils ont vu, ils ont pu constater le message donné, ils ont pu constater qu'ils ont été baptisés, et là, à ce moment-là, ces apôtres-là, qui ont une autorité apostolique, peuvent dire, on a vu, on a constaté que ces gens-là, les Samaritains, ont compris l'Évangile, ils ont été baptisés, et on va attester, si je peux dire, avec l'autorité apostolique, que oui, ils ont bel et bien reçu la parole. Alors, cette délégation-là de l'Église de Jérusalem, qui est l'Église mère de toutes les Églises à ce point-là, ben envoie Pierre et Jean pour constater ça. Et verset 16, « Car ils n'étaient pas encore descendus, parlant du Saint-Esprit, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » dans Actes 19, on disait tantôt, s'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils n'étaient pas sauvés. Dans Actes 8, je crois qu'il était important au tout début de l'Église primitive comme ça que Dieu a voulu vraiment montrer l'établissement de l'Évangile qui grandissait. Et Jésus, c'est ce qu'il avait dit, Actes 8, hein? De Jérusalem, toute la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on voit l'Évangile qui s'étend et on a une confirmation par une autorité apostolique que, oui, les Samaritains ont bel et bien reçu le baptême de Jésus-Christ parce qu'ils ont cru et maintenant on va leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Une troisième réponse qu'on pourrait ajouter à ça, c'est... Pourquoi? Tout simplement, il fallait que Paul, dans Acte 19, ou Pierre et Jean leur imposent les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce que c'est encore actuel aujourd'hui? Il y en a certains qui vont pratiquer dans d'autres églises. Est-ce que c'est ça qui confirme qu'on a besoin de le faire encore? Pourquoi est-ce qu'on fait plus ça? Oui, quand on se convertit, on aurait pu citer Tite, par exemple, qui parle du baptême de l'esprit de régénération au moment de la conversion. Dans Éphésiens, que quand on entend et qu'on croit, on reçoit le Saint-Esprit aussi. Monsieur Dumont, vous vouliez dire de quoi tantôt? Oui, absolument. Et je crois que là est la réponse de pourquoi est-ce que... ils imposaient les mains pour recevoir le Saint-Esprit, c'est un signe pour l'établissement de l'Église primitive. Et ça faisait partie aussi, dans Actes 19, le parler en langue et les prophéties, c'était des signes, encore une fois, comme les miracles de Philippe qu'il faisait dans la ville. Tout cela est des signes pour confirmer l'établissement de l'Église qui progresse. J'ai vu Karel, après ça Serge, après ça Jacinthe. T'avais-tu levé ta main, Serge? C'est vrai. Oui, c'est arrivé. OK, vas-y, Karen. Non, c'est ça. Oui. C'est ça. Oui, absolument. Oui, je sais. Oui. Oui. C'est ça. Oui, absolument. Et c'est ça, la nuance est importante. Le livre des Actes des apôtres, on pourrait jusqu'à aller à dire qu'il faut être vigilant de ne pas nécessairement tirer de doctrine uniquement basée sur le livre des Actes. On pourrait dire ça comme ça. S'il y a des épîtres et s'il y a un ensemble d'un enseignement qui est donné dans le Nouveau Testament qui confirme une doctrine issue aussi des Actes, bien, si elle est appuyée par d'autres, c'est bien. Mais le livre des Actes est tout à fait ce qui s'est passé, est tout à fait vrai, tout à fait bon, tout à fait le plan de Dieu, comment est-ce qu'il l'a établi, mais c'est une période donnée pour l'Église primitive, pour son établissement aussi. Et une fois l'Église primitive établie, et qu'il y a d'autres églises aussi qui ont commencé à grandir, mais là, il y a des enseignements doctrinaux qu'il faut particulièrement tirer, comme les épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques, l'Apocalypse, Jude, Philémon, et qu'on va greffer, si je peux dire, à tous ces enseignements-là, issus aussi des actes. Est-ce que, Serge, t'avais-tu quoi tu voulais dire, ou tu faisais juste ça? Oui. C'est ça, absolument. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, absolument. Et on voit dans d'autres épîtres, Paul il cite aussi d'imposition de main. N'impose pas les mains avec précipitation, mais ça n'a rien à voir avec le fait de recevoir le Saint-Esprit. Dans le contexte que Paul va citer, n'impose pas les mains avec précipitation, c'est dans l'établissement d'anciens. Alors, on n'établit pas des anciens avec précipitation parce qu'une personne, on croit qu'elle est bonne. On prend le temps de la laisser faire sa place et d'être confirmé par le Saint-Esprit aussi, si je peux dire. Et l'imposition des mains était une attestation de l'Assemblée de ce qu'elle considérait de mettre à part, finalement. Un peu comme Paul et Barnabas. OK, est-ce qu'à votre avis, la question est résolue? Est-ce que c'est une réponse satisfaisante? Parce que je ne sais pas c'est qui a posé la question, hein? Fait que si ensemble on dit, il me semble que ça c'est clair, ben on va passer à l'autre. Est-ce qu'à votre avis, ça semble clair? Oui? Il y en a qui sont pas sûrs, là. Vas-y. Oui. 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 Ouais. 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 C'est ça. Effectivement, je crois que plusieurs de. J'aime pas parler comme ça parce que je veux pas porter de. Pour moi, Dieu sera le juge de ces églises-là. Je ne veux pas porter de jugement sur ces églises-là, mais je suis très peu favorable à la doctrine qui semble enseignée et pratiquée, parce qu'elle ne me semble pas venir des Écritures. C'est ça, ils s'organiseront avec Dieu, avec leur pratique, si je peux dire. Est-ce que c'est alimenté par le malin? Ben, j'aurais pu apporter une citation, j'avais déjà partagé à un moment donné. Avez-vous déjà entendu parler de la bénédiction de Toronto? Hein? Non, ben, en tout cas, c'est, tant mieux. Tant mieux. Ben, il y a des églises comme ça, là, qui faisaient des choses tout à fait folles, là, tout à fait, là. C'était fou, là. Et ça, c'était selon le Saint-Esprit, là, à leur avis. Et il y a un de ces pasteurs-là qui était là à ce moment-là, qui aujourd'hui a écrit une confession publique en disant que c'était pas du tout alimenté par Dieu. C'est alimenté beaucoup par les propres intérêts personnels, par leur propre orgueil, par leur propre pensée, exclu des Écritures. Et on a cette confession-là écrite là, qu'on peut trouver facilement d'un de ces pasteurs qui était avec eux à ce moment-là. Bref, c'est ça. C'est une triste histoire plus qu'une heureuse. On voit ça à travers les actes, comment est-ce que le Saint-Esprit a été donné en différents moments. Et comment est-ce que Dieu confirme son message à travers les églises qui vont s'établir. OK, passons à une autre question. Oui. Ben oui, c'est ça. C'est ça, absolument. Et le parler en langue était un don. Et comment? Oui, c'est ça, c'est ça. Ils œuvraient ensemble avec Dieu et même le parler en langue à ce moment-là était une confirmation pour les incroyants qui entendaient le message dans leur langue, qui n'était pas un parler extatique. Bref, on pourrait parler longtemps là, sur les dons, là, c'était pas ça la question. Mais on a l'établissement de l'Église dans les actes. Et je pense que c'est ce qui justifie cette arrivée de l'Esprit de cette façon-là. Prochaine question. Tournez avec moi dans Jean 8. On va répondre brièvement, si je peux dire, parce que notre frère Ghislain, l'autre fois, quand il prêchait sur la liberté, il a utilisé le texte de Jean 8. Et la question est issue de Jean 8, 36. La question est... Je peux lire Jean 8, 36. « Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. » La question était, de quelle liberté Jésus parle-t-il dans Jean 8, 36? De quelle liberté est-ce que Jésus parle à ce moment-là? Ce qu'on va faire, on va lire les versets, je viens de lire le verset 36. On va juste regrouper quelques versets pour se placer un peu dans le contexte. Lisons à partir du verset 30, que je vais lire jusqu'à 35. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Qu'est-ce qui nous affranchit? Ça veut dire quoi, affranchir? Rendre libre. Et qu'est-ce qui nous affranchit? Le fils qui a payé la dette du péché. Et quoi d'autre aussi? Ouais, exactement. Le verset 32 dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » On parlait ce matin justement sur la question de vérité, Jésus qui est la vérité. La vérité nous mène à l'affranchissement, à être libre. Mais en fait, la question qui a été posée dans la boîte, là, c'est exactement la même question que les Juifs avaient. Hein? Mais voyons, pourquoi tu parles de liberté? On a toujours été un peuple libre à partir du moment qu'on est sorti d'Égypte. On a toujours été un peuple libre. La liberté pour Jésus, c'était quoi? C'était la liberté du péché. C'est être sorti de l'esclavage. Et Jésus, il répond lui-même en disant, verset 34, « en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, et qui est la même question, « Pourquoi est-ce que tu dis qu'on n'est pas libre? Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Au verset 36, « Donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Êtes-vous réellement libre? Oui? Amen? Oui? Est-ce que vous êtes libre du péché? Qu'on est libéré du péché. Absolument. Absolument. Oui. On est libre de la condamnation du péché et de l'autorité du péché dans nos vies aussi. On a en nous l'esprit et la nouvelle vie, la nouvelle créature que Dieu a fait en nous pour qu'on puisse vivre la liberté. Est-ce que ça veut dire que le péché nous fait pas du mal une fois de temps en temps? Péché, des fois, on est encore malheureusement, on pourrait peut-être même dire attaché, mais on est des fois, on peut même revenir sous un ancien esclavage. C'est ce que Paul dit hein, dans Romains 6, Romains 7, Romains 8, on pourrait parler de la liberté et de l'esclavage face au péché. Mais si je réponds à la question, à son premier sens, ce qui est la liberté, c'est face à l'esclavage du péché. Et si on pousse la réflexion plus loin en tant que croyant, on a à vivre la liberté et à expérimenter la liberté face au péché dans nos vies. Mais on doit constamment être vigilant, constamment faire attention, parce que le péché nous colle facilement à la peau. Souvenez-vous, Hébreux 11, « Débarrassons-nous de tout péché qui nous enveloppe si facilement. » Le péché, en tant que croyant, nous colle à la peau et on a à s'en débarrasser constamment. Et on va passer par-dessus le texte, là, mais je vous lance Romains 7, 15 à 25, où Paul est constamment, il dit, je voudrais faire le bien que je veux pas faire. Je veux faire le bien que je fais pas, puis je fais le mal que je voudrais pas faire, et puis je suis constamment en difficulté. Mais finalement, il arrive à Romains 8. Heureusement, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation, comme tu dis tantôt, Yvan. On est libéré de la condamnation, libéré de toute grippe. Si on était du velcro, puis le péché nous collait vraiment facilement, maintenant, avec la position que l'on a en Christ, ce péché-là n'a plus autorité sur nos vies. Mais il ne faut pas lui donner accès non plus. Est-ce que, à votre avis, la réponse est donnée? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Oui. Qu'est-ce que tu voulais ajouter? De demeurer. OK, c'est ça, pour commenter. Oui, c'est ça, absolument. Mais oui, c'est ça. En demeurant, justement, en Jésus-Christ. Et mais justement, on préfère l'énumération de ce que c'est le vrai disciple. Il dit aux Juifs qui avaient cru, « Vous croyez en moi, c'est bien, mais si vous demeurez dans ma parole, là, vous allez être vraiment mes disciples. » Ça va être plus que de croire, vous allez vraiment être mes disciples. Et là, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Exactement comme tu dis, Angela, les vrais disciples demeurent près de Christ. Et le fait de demeurer en Christ fait en sorte qu'on connaît la vérité et qu'on vit libre constamment. Oui, M. Dumont. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. On est affranchi de cette loi-là qui nous attachait, qui faisait autorité dans nos vies. Et maintenant, on a changé de maître. On a changé d'autorité. Maintenant, Jésus-Christ, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. » On pourrait parler longtemps sur ça, hein, puis on pourrait louer Dieu longtemps aussi sur cette vérité-là, que le Fils, s'il nous a affranchis, on est réellement libre. Et c'est une belle vérité à communiquer aussi. OK, passons à une autre question. On est déjà dans Jean, reculez quelques chapitres, allez avec moi dans Jean 3. Quelqu'un qui voudrait lire les versets 1 à 8. Je vais vous poser la question après. Vas-y, Richard. OK. La question dans Jean 3, 5, Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ça veut dire quoi, naître d'eau? Ça veut dire quoi, naître d'eau? Jésus est en train d'avoir cette discussion-là avec Nicodème. Et là, Nicodème reconnaît bien que Jésus a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose qui peut, il peut lui répondre à des questions. Et là, Jésus lui dit, on connaît le texte, hein, tu dois naître de nouveau. Puis là, c'est quoi la question à Nicodème? Comment ça peut se faire? C'est quoi le sens qu'il a compris? De revenir dans le ventre de sa mère pour renaître. Mais voyons, Jésus, qu'est-ce que tu veux dire? Et la question à Nicodème est légitime. Là, nous autres, on connaît la réponse de Jésus depuis longtemps, là. Mais Nicodème, lui, il l'entendait live. Et puis, sa question était légitime. Jésus, tu dis qu'on doit naître de nouveau. Comment ça se fait? Ça veut dire quoi, naître d'eau et d'esprit? Oui, Karel. OK. Ça, c'est une interprétation. Certains vont dire, voici le baptême de Jean-Baptiste, et il faut avoir après ça le baptême de l'Esprit. Est-ce qu'il y a d'autres interprétations, sans dire tout de suite qu'elles sont bonnes ou mauvaises? Vas-y, Jacinthe, après ça, Céline. OK. OK. Oui. OK. Oui. Céline. Oui. OK. OK. C'est bien. J'avais vu une autre main aussi en arrière. Vas-y, Yvan. OK. De la parole. Oui. Sur la purification. Oui. Oui. OK. Oui, effectivement, c'est une autre interprétation qui est donnée aussi. Vas-y, Daniel. Et dans le premier verset que tu citais, il parlait de cette... répète-moi le début du premier verset que tu as cité, là, parce que j'échappe les mots. Le verset juste avant. Le verset 25. C'est ça. Oui. Et on pourrait attacher ça peut-être avec ce que Yvan parlait de l'eau, de la parole qui purifie. Je conviens que c'est pas évident de trancher dans différentes interprétations comme ça. Je vais vous donner la mienne, si vous voulez bien. Puis vous, à vous de juger si elle est acceptable. Mais je peux dire que je vais selon l'analogie de la foi aussi, c'est-à-dire que je suis pas tout seul à croire ça. Alors, ça, c'est bon pour moi, ça. Je vais vous donner je vais vous donner quatre interprétations qui sont déjà sorties. Des interprétations qui parlent que ça pourrait être le baptême chrétien. À ce moment-là, le baptême de Jésus-Christ, je dirais, si on parle de naître d'eau, qu'on parle, c'est le baptême du chrétien, je dirais que c'est une interprétation peu favorable parce que justement, au moment où Jésus parle avec Nicodème, l'établissement du baptême chrétien a encore d'une identification à Jésus-Christ, à la mort et la résurrection, et ce n'est pas encore établi, là. Ce n'est pas encore pratiqué. Pas encore coutume à ce moment-là. Alors, Jésus suit la conversion avec Nicodème, la conversation avec Nicodème au sujet d'un être quand il est vieux. Et regardez verset 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Une deuxième interprétation qui est donnée, on peut retenir ce qu'on vient de lire, là. Une deuxième interprétation que tu disais tantôt, Karel, qui était le baptême de Jean, plus le baptême de l'Esprit. Le baptême de Jean-Baptiste préparait à la venue de Jésus et à son baptême que Jésus allait donner. Mais il ne s'ajoutait pas à celui de Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Jésus n'emploie pas le mot « baptême », mais il emploie le mot « naître ». Et regardez, si on parle du baptême de Jean-Baptiste, on pourrait dire que les deux mots collent difficilement ensemble parce que Jésus n'a pas cité le mot baptême, mais il a parlé de naissance. On parlait ce matin de baptême. Si on dit baptême de Jean-Baptiste, littéralement, c'est immerger dans l'eau. C'est vrai qu'il y a un sens relié à l'eau, mais Jésus ne va pas employer le mot baptême, mais il va employer naissance d'eau, par exemple. Et est-ce qu'il y a une nouvelle naissance dans l'eau? Évidemment, non. Et est-ce que c'est relié au baptême de Jean-Baptiste? On dit encore aux gens, tu dois naître de nouveau. Est-ce qu'on va leur donner l'enseignement qu'il faut qu'ils soient baptisés selon le baptême de Jean-Baptiste? Et après ça, éventuellement, le baptême de Jean-Baptiste était une... colle peu avec le mot que Jésus emploie, naître. Une autre interprétation qui est donnée, dans le verset 5, ça dit... Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Certains vont traduire le mot et qui est là avec qui peut se traduire, si je peux dire légalement, là, c'est-à-dire. On pourrait traduire le mot et par c'est-à-dire. Alors, certains vont interpréter ça. Un homme doit naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit. Un volontaire qui veut me lire Jean 7, 37 à 39. Quelqu'un voudrait lire ça? Danny? OK. Disons que de cette interprétation-là, j'aurais pas beaucoup de contre-arguments pour dire que c'est pas nécessairement une bonne interprétation. On a un texte, par exemple, que Jésus parle du Saint-Esprit ou des fleuves d'eau vive peuvent jaillir. Un peu comme l'interprétation, vous disiez tantôt en parlant de l'eau de la parole dans Éphésiens qui purifie. J'ai pas beaucoup de contre-arguments pour dire que c'est fort probablement pas ça que Jésus voulait dire. Mais on voit dans Jean 7 que c'est ça. Alors, au verset 8, si on revient dans Jean 3, est-ce que Jésus a voulu dire naître d'eau, c'est-à-dire de l'Esprit? Mais le problème, c'est qu'au verset 8, Jésus ne répète pas l'idée d'eau, naître d'eau, mais uniquement d'esprit. Et il semble y avoir une séparation entre la naissance d'eau et la naissance de l'esprit. Parce que le verset 8 exclut la naissance d'eau. Dans le verset 8, le vent, en passant, vent peut être traduit ici par esprit. Dans le Nouveau Testament, il a été traduit une seule fois par vent, et c'est là. Toutes les autres fois, il a été traduit par esprit. Et je pense qu'on devrait retenir le mot « esprit » parce que c'est le contexte aussi qui est donné. Alors, l'esprit souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. On ne parle pas de naissance d'eau, mais on parle uniquement de l'esprit. La dernière interprétation qui rejoint plus... qui est la mienne puis qui est la réponse que j'apporterais, mais... Je ne serais pas prêt à mettre ma main à couper pour ça, mais je crois que c'est celle qui donne le plus de sens, qui est la naissance d'eau, qui est la naissance humaine, et la naissance de l'esprit, qui est la naissance spirituelle. On doit naître de chair et naître d'esprit. Je pense que ça va avec le contexte que Jésus est en train de développer. Ça va aussi avec le questionnement que Jean-Baptiste a lui-même. Comment est-ce qu'un homme peut revenir dans le sein de sa mère? J'étudie Jean-Baptiste. Nicodème, excusez. C'est un peu la question que Nicodème avait. Comment est-ce qu'un homme peut revenir dans le sein de sa mère? Et là, je crois que Jésus lui répond, ben tu dois naître, oui, de la chair, tu dois naître de l'esprit aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, Richard? C'est ça? Oui. C'est ça. C'est ça.